journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Africa.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans le journal des auditeurs. Pendant 30 minutes, l'antenne d'Africa numéro 1 est à vous. Venez vous exprimer sur l'actualité. Aujourd'hui, nous attendons vos réactions sur le processus de paix en Centrafrique. Plusieurs initiatives sont en cours pour trouver un accord entre les autorités de Bangui et les groupes armés. À côté de l'initiative panafricaine dirigée par l'UA, Moscou, qui vient de signer un accord de coopération militaire avec la Centrafrique, a entrepris de réunir des représentants des groupes armés à Khartoum, la capitale du Soudan. Alors que pensez-vous de ces négociations? Doivent-elles déboucher sur une loi d'amnistie? Et que pensez-vous du rôle nouveau de la Russie? Vos commentaires nous intéressent. Nous serons par téléphone pour en parler depuis Bangui avec Pierre Brunisseau. Il est coordinateur de projet pour la FIDH et la Fédération internationale des droits de l'homme. Pour participer, nous faire part de vos avis et de vos commentaires, composés dès maintenant le 01 55 07 58 00 depuis la France. Et si vous nous écoutez depuis partout ailleurs dans le monde, composez le 00 33 1 55 07 58 00 pour intervenir. Mais avant de parler du sujet du jour, je vous propose d'écouter quelques messages que vous nous avez laissés sur le répondeur d'Africa numéro 1.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Bonjour, bonsoir. Actuellement, on parle beaucoup de pédophilie, des enfants illégitimes cachés, des prêtres dans l'Église catholique. Cela nous amène à poser la question sur le célibat des prêtres. Chez les musulmans, les imams, les marabouts sont mariés. Chez les juifs, les rabbins sont mariés. Chez les protestants, les pasteurs sont mariés. Nous devons nous poser la question sur les catholiques. S'ils étaient mariés, peut-être ne connaîtrons pas, nous, tous ces problèmes de pédophilie. Je vous remercie.
Bonjour, je suis Elodie, responsable événementiel de Ethiopia France Association. C'est une association à but non lucratif et apolitique dont l'objectif est de valoriser les relations entre la France et l'Éthiopie. Nous avons le plaisir de vous convier à l'inauguration que nous organisons le 1er septembre au 89 rue du Chemin Vert à Paris dans le 11e, métro Voltaire, dès 15h. Au programme sont prévues des rencontres, des échanges et plusieurs dégustations de mets éthiopiennes et danses traditionnelles. L'occasion de découvrir la culture éthiopienne et les projets de l'association. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook Ethiopia France Association et sur Instagram Ethiopia-France-Association. Nous vous espérons très nombreux et à très vite. Au revoir.
Bonjour Madame Hartmann, bonjour les amis des JDA, bonjour le peuple africain et tous ceux qui aiment la République démocratique du Congo. Les Africains, prenez l'exemple d'un grand ministre influent de la République française, Nicolas Hulot, ministre de l'Environnement, de l'Écologie. Il a démissionné parce qu'il a vu tout ce qu'il pouvait faire, il n'arrive pas à faire. C'est pour cela qu'il a démissionné. C'est pour cela que nous demandons aux dirigeants africains, aux gouvernants africains, de prendre l'exemple. Si tu sais que tu es incompétent, si tu sais que tu n'arrives pas à bien diriger ou bien à bien gouverner les institutions du pays, tu dois qu'à démissionner pour laisser la place aux autres, à Ikomo Pongi, résistants combattants, etc.
Les femmes africaines sont devenues des femmes seules à cause de l'argent. Et ne veut plus être en couple pour gagner de l'argent. Elle est tombée amoureuse de l'allocation sociale. Elle a mis son mari dehors et devient clochard. Pitié, pitié aux enfants. Les femmes africaines sont devenues des femmes seules à cause de l'argent. Oh, les femmes africaines. Qui va vous juger un jour?
Oui, bonjour, amis des GDA. Je n'ai pas souvent l'habitude de tellement m'informer sur, ou bien appeler de, régulièrement, mais de temps en temps, j'appelle lorsqu'il y a nécessité. Moi, mon point de vue ce matin, c'est à propos des élections qui doivent se passer en général en Afrique centrale. Je me pose la question, les élections qui sont en train de vouloir se dérouler avant fin 2019, fin 2018, pardon, je crois que normalement il y a un enjeu qui se passe que les gens n'ont pas compris. Les opposants de tous les pays en Afrique centrale, ils se battent le peu qu'ils peuvent le faire. Mais j'ai souvent parfois le regret de dire que tout ça, c'est le mascarade. Parce que les élections en Afrique, chez nous, plutôt en Afrique centrale, sont jouées en avant. Vous avez beau faire vos campagnes, dépenser de l'argent, mais lorsque les gens sont au pouvoir, ils ne veulent plus quitter. Je vais prendre l'exemple du Congo Zaïre. Mais vous voyez, le Congo Zaïre va se passer comme Poutine. Il va avoir ce qu'on appelle une transition présidentielle. C'est-à-dire que celui qui sera là va remplacer pour un bout de temps. Après, le jeune Kabila va revenir. C'est comme ça le système. Vous savez que être président en Afrique, c'est le beurre, c'est le miel, c'est sucré. On ne peut plus lâcher. Donc, il faut qu'on reste éternellement jusqu'à mourir au pouvoir. Et je veux parler aussi, c'est un pays que je ne veux même pas indexer en Afrique centrale. Que vous, vous le savez qu'il y a des présidents qui veulent s'éteindre au pouvoir jusqu'à mourir au pouvoir. C'est tout ce que je voulais dire ce matin. Que Dieu bénisse l'Afrique, que la guerre finisse en Afrique, que la maladie finisse. Ciao, ciao, bye.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Africa.
Merci pour vos messages. Vous pouvez désormais intervenir en direct dans le journal des auditeurs en nous appelant au 01 55 07 58 00 depuis la France et le 00 33 1 55 07 58 00 depuis partout ailleurs dans le monde aujourd'hui. Nous attendons vos réactions, vos questions sur le processus de paix en Centrafrique. 2 ans après l'élection de Faustin Archange Touadéra, l'heure est toujours aux négociations avec les groupes armés en Centrafrique. Certains conditionnent leur désarmement à la signature d'une amnistie. Alors dans quelle mesure une amnistie est-elle possible en Centrafrique? Et que pensez-vous, chers auditeurs, de l'initiative de Moscou, nouveau partenaire de Bangui? Nous en parlons par téléphone avec Pierre Brunisseau, il est coordinateur de projet pour la FIDH. Pierre Brunisseau, bonjour.
Oui, bonjour, merci pour votre invitation.
Merci d'être avec nous par téléphone depuis Bangui. Tout d'abord, les groupes armés devaient se retrouver à Boire, dans le nord du pays, sur l'initiative de l'Union africaine. Mais finalement, il semblerait que cette médiation se tienne plutôt à Khartoum, au Soudan. Ma première question sera celle-ci. Est-ce que finalement, face à l'impasse dans laquelle semblaient se trouver les négociations avec l'Union africaine, la Russie a repris la main?
C'est difficile à dire. La rencontre qui a eu lieu à Khartoum a déroulé avec les chefs des groupes armés. La rencontre qui s'est déroulée à Bouar, en République centrafricaine, s'est déroulée avec les représentants des groupes armés sous l'égide de l'Union africaine. Aujourd'hui, le gouvernement a rendu public un communiqué expliquant qu'il prenait acte de ce rendez-vous qui avait eu lieu à Khartoum et qu'il était toujours engagé dans le processus de paix avec l'Union africaine. Le fait que le gouvernement prenne acte et réitère son engagement avec l'Union africaine montre quand même la volonté du gouvernement de pouvoir continuer à travailler aux côtés de l'Union africaine.
Est-ce que déjà il y a un an, il y avait un accord de paix qui avait été signé sous l'égide de la communauté Saint-Égidio? Là, on entend avec vos explications que finalement, il y a des initiatives parallèles. Est-ce que la multiplication des initiatives ne risque pas de compliquer le processus de paix ou au contraire, ça le faciliterait?
C'est une bonne question. La question, c'est également de savoir si ces acteurs vont pouvoir se mettre d'accord sur plusieurs principes et pouvoir faire émaner des revendications qui seront entendables par les populations en Centrafrique. Aujourd'hui, on s'est rendu compte d'une chose, c'est l'unanimité est ressortie au Forum de Bangui en 2015 lorsque 800 organisations s'étaient réunis. Alors, on n'avait pas seulement des organisations, on avait également toute la société civile, des groupes armés, et qui avait établi un certain nombre de lignes rouges, telles que l'impunité zéro. Aujourd'hui, le risque, et ce pourquoi nous avons publié un communiqué la semaine dernière avec plusieurs organisations, la ligne rouge que nous clamons, de ne pas octroyer d'impunité à ces chefs de guerre. Aujourd'hui, il y a des négociations. Ce qui émane de ces négociations, c'est que potentiellement, ces criminels de guerre voudraient pouvoir s'octroyer des amnisties à la table des négociations. Néanmoins, on s'est rendu compte que sur les différents piliers qui existaient au niveau de la réconciliation, en l'occurrence la justice, la vérité, la réparation et la garantie de non-répétition, qui sont les grands piliers lorsqu'on lance un processus de réconciliation nationale, la justice est au cœur de ce processus. Et notamment, il y a quelque chose qui ne fonctionne jamais. Il n'y a pas de recette magique pour les processus de réconciliation, mais le point qui amène à des résurgences de la crise, c'est l'impunité. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous lançons un cri d'alerte. Nous ne voulons absolument pas que ces professionnels du désordre, ces criminels qui sont suspectés d'avoir commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, puissent s'octroyer une quelconque amnistie.
Certains des groupes armés demandent à être intégrés dans le gouvernement. Qu'en pensez-vous ? Êtes-vous favorable à ce genre d'initiative ?
Nous sommes totalement opposés à l'octroi d'un pouvoir politique aux dirigeants des groupes armés. Où est-ce qu'ailleurs, sur le continent, sur d'autres continents, où est-ce qu'on donne un pouvoir politique en réponse à des exactions ? Nulle part. Seulement en Afrique, où on nous explique que potentiellement, par bienfaisance, on pourrait octroyer un pouvoir politique à des individus qui ont commis des crimes. Un pouvoir politique s'obtient par les urnes et non pas par les armes.
C'est très clair. Restez à l'écoute, Pierre Brunisseau. On va donner la parole aux auditeurs qui nous appellent au 01 55 07 58 00 depuis la France et même le 00 33 1 55 07 58 00 depuis partout ailleurs dans le monde et notamment depuis Djibouti. On va rejoindre Hassan. Hassan, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Hassan, bienvenue dans le journal des auditeurs. Vous nous laissez régulièrement des messages sur notre page Facebook. On a souvent du mal à le joindre et miracle, aujourd'hui, on a réussi. Alors, vu de Djibouti, quel regard vous portez sur le processus de paix en Centrafrique ?
C'est une très bonne initiative de trouver des solutions à un pays qui est en guerre. Souvent, la Centrafrique est confrontée à ces problèmes-là pendant des années. Et c'est de trouver des solutions qui est très importante. Mais moi, je crois qu'il y a une question qui est très importante qu'il faut soulever. C'est la question de la légitimité de cette conférence qu'on organise pour réconcilier les Centrafricains. À mon avis, la réconciliation doit venir de l'intérieur. C'est-à-dire, on doit organiser une conférence à l'intérieur de la Centrafrique pour les Centrafricains et avec les Centrafricains. Donc, si on trouve des solutions à l'extérieur, ça ne va pas marcher et ça peut entraîner des intérêts divergents et qui peuvent mettre mal même l'avenir et la stabilité et la souveraineté nationale de la Centrafrique. Si souvent aujourd'hui, les Russes sont présents et même ils sont présents militairement et formés des soldats centrafricains, je crois qu'il y a une arrière-pensée russe, si je peux dire ainsi. Donc les centrafricains doivent prendre en main leur destinée et construire leur nation et trouver des solutions. Et sur le procès concernant la justice elle doit être impartiale, c'est-à-dire qu'on doit, tous les bourreaux, que ce soit du régime ou de rébellion, doivent être mis en enquête, c'est-à-dire peut-être envoyés à la Cour internationale, la Cour pénale internationale, la haie, et être condamnés. Parce que plus l'individu n'est pas souvent jugé, et la situation se répète. Donc, justice, la justice sociale et la justice est. Justice à son propre terme, il doit passer par là, la réconciliation nationale.
C'est très clair, Hassan. Merci de votre contribution. On a retenu que vous interrogez sur le fait de déplacer ces négociations en dehors du pays. On demandera à Pierre Brunisseau ce qu'il en pense dans quelques instants, mais aussi la nécessité, avant toute amnistie, en tout cas de la justice. On va écouter Hosanna, qui veut parler également de cette amnistie. Hosanna, bonjour, depuis le Tchad à N'Djamena, justement.
Oui, bonjour Stéphanie et bonjour à tous les amis de la JDA.
Bonjour Hosanna, bienvenue, merci de votre fidélité. Vous êtes totalement opposé à toute forme d'amnistie pour ces groupes armés.
Oui, moi je ne pense pas qu'on doit accorder l'amnistie à des groupes rebelles, des personnes qui ont causé des torts à la population, surtout les paisibles citoyens. Donc la bonne paix d'abord passe par la justice, donc on doit laisser la justice faire correctement son travail. Et c'est le sort de ceux-là qui sont reconnus coupables. Sinon, on ne peut pas tolérer ou peut-être donner la chance. Et cela peut agrandir l'impunité sur le continent africain. Donc moi, je suis vraiment contre cette amnistie qu'on passe donner à des bandits de grand chemin. Moi, je les qualifie comme ça. Il faut que la justice frappe, il faut que la justice tue pour peut-être faire peur aux autres, ceux-là qui pensent entrer dans la rébellion et puis tuer à les pauvres citoyens. Donc, il faut que la justice soit sévère, il faut que la justice frappe normalement. Et comme ça, je pense qu'on n'aura pas à arriver à à des barbaries sur le continent africain. Donc moi je demande que la justice soit vraiment rigoureuse sur ce sujet et ne pas accorder la chance à ceux-là qui espèrent peut-être être tolérés pour les torts qu'ils ont commis à la population centrafricaine.
C'est très clair. Merci Ozana de votre contribution à cette émission depuis Djamena au Tchad. On vous souhaite une bonne journée. Pierre Brunisseau, je reviens vers vous. Vous avez entendu Hassan et Ozana, qui n'étaient pas très... qui étaient plutôt du même avis. Hassan s'interrogeait sur les négociations à Khartoum. Quel est l'intérêt pour la Russie de se rapprocher du Soudan pour mener ces négociations? Le Soudan a souvent été désigné comme une base arrière des groupes armés.
Effectivement, on sait que la Centrafrique, et c'est pas un élément qui est nouveau, fait partie d'une zone stratégique, énormément d'enjeux découlent de ce pays. Aujourd'hui, le fait que ce soit une puissance étrangère, que ce soit la France, la Russie, un quelconque pays puisse s'immiscer pour pouvoir lancer un dialogue, nous ne sommes pas farouchement opposés. Seulement, ce qui nous importe, c'est le contenu du dialogue. Et l'important, c'est que les Centrafricains soient pris en compte. On les a trop longtemps négligés dans ces processus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on estime qu'il est très important que les Centrafricains aient la parole. Et ce qui ressort aujourd'hui du peuple centrafricain, c'est la négation d'un octroi d'amnistie. Le refus est clair. Aujourd'hui, effectivement, l'Union africaine et la Russie lancent des initiatives pour pouvoir obtenir un dialogue et pourquoi pas un accord politique. Je rappelle seulement que l'Union africaine, dans son acte fondateur à l'article 4, est engagée contre l'impunité. La feuille de route de l'Union africaine pour résoudre le conflit en Centrafrique est engagée également de manière claire contre l'impunité.
Alors, je ne sais pas si vous nous entendez encore, Pierre Brunisseau, parce que la ligne se dégrade un petit peu. Est-ce que vous êtes toujours là?
Oui, je vous entends toujours.
Bon, ça va. Oui, c'est bon, je vous entends. Alors justement, Hassan et Ozana insistaient sur la justice. Hassan a évoqué la CPI, mais loin de la CPI, la Centrafrique a mis en place une cour pénale spéciale qui est rentrée en vigueur, qui a été mise en place, je pense, en mai dernier. Est-ce que ces négociations ne risquent-elles pas de nuire au travail de la cour qui doit enquêter justement sur les crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis ces dernières années?
Vous avez tout à fait raison. La Cour pénale spéciale, qui est une juridiction centrafricaine, a été mise en place avec l'appui de la communauté internationale. Cette Cour pénale spéciale est évidemment conditionnée par les différents appuis financiers qui peuvent venir appuyer son travail. L'objectif n'est pas de créer une chambre extraordinaire, mais une juridiction nationale pour que la justice soit rendue pour les Centrafricains en Centrafrique. Alors les moyens d'enquête de la CPS sont assez étoffés. On a une vingtaine d'officiers de police judiciaire qui ont été nommés, qui sont formés, et les enquêtes débuteront en septembre. On a également la police des Nations Unies qui peut travailler sous l'ordre du procureur. Concernant les juridictions dites ordinaires, la cour criminelle à Bangui a relancé des audiences depuis deux mois. On a des condamnations dans des affaires qui sont liées à la crise. La justice se renforce. La CPS devrait effectivement pouvoir juger les grands criminels. Et aujourd'hui, ce n'est pas un hasard si on voit que les groupes armés s'activent autant à la table des négociations pour pouvoir s'arroger des amnisties, des garanties de non-poursuite, des grâces. C'est que la peur est en train de changer de camp.
C'est très clair, la crainte de la justice, vous dites, Pierre Brunisseau. On va écouter Sekou qui a une question pour vous. Sekou, bonjour.
Oui, bonjour madame, heureux de vous retrouver.
Bonjour Sekou, bienvenue.
Bah, écoutez, moi la question elle est simple, elle est sincère, hein, honnêtement. Et je profite de la présence de votre invité qui semble connaître bien le sujet. Moi je voudrais vraiment connaître l'objectif réel de la Russie dans cette affaire-là. Est-ce que c'est purement un objectif politique pour dire que voilà, pour faire face aux Occidentaux, nous aussi les Russes, nous avons à russe de problèmes dans le monde entier. Est-ce que c'est purement économique pour faire un petit peu en parallèle comme fait la Chine avec la route de la soie qui veulent s'imposer un peu partout en Afrique, ou est-ce que c'est purement diplomatique? Et à ce moment-là, ma question, elle va dans le sens où nous, Africains, on doit déjà comprendre pourquoi la Russie agit de cette manière-là, et si on voit que ça va dans notre intérêt, pourquoi pas? Alors, je rebondis sur mon deuxième intervention en disant que pourquoi pas? Pourquoi pas? Même si c'est à Khartoum, même si c'est à Dubaï, je ne sais pas, peu importe. L'essentiel, c'est qu'on trouve une solution à ces problèmes-là. Depuis 2012, on essaie de trouver une solution. En 2018, on n'a pas avancé. Avant de parler de punition, d'impunité, etc., d'abord, le calme, stabilité dans ce pays-là, le calme. Et après, on verra par la suite.
Effectivement. Merci, Sékou. Restez à l'écoute. Alors, Sékou avait une question très simple. Je ne sais pas si vous avez une réponse, Pierre Brunisseau, sur... ce qui guide la Russie à s'impliquer de plus en plus en Centrafrique, puisqu'elle a signé une coopération militaire, mais plus globalement, on peut l'observer aussi dans d'autres pays du continent. Sékou avait plusieurs propositions d'intérêts économiques, une volonté politique de s'opposer aux Occidentaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est l'intérêt de la Russie dans cette affaire centrafricaine?
Alors en tant que ONG de protection des droits humains, on a peu d'informations à ce sujet. Néanmoins, comme vous le dites, comme le disait votre auditeur, la Centrafrique est libre de s'engager avec qui elle le souhaite. Néanmoins, on peut émettre des doutes quant à l'issue de ce procédé. Est-ce que la Russie est mieux placée que l'Union africaine pour pouvoir régler le conflit? Est-ce que la Russie a de l'expérience en Afrique en matière de gestion des conflits? De quelle manière ce conflit va être géré? C'est autant d'interrogations qui demeurent.
On sait que les groupes armés perdurent, Pierre Brunisseau, à cause aussi de l'exploitation des ressources, hein, notamment dans le nord de la Centrafrique. Est-ce qu'on peut imaginer que la Russie ait un intérêt aussi à capter ces ressources?
D'après mes informations aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de vous dire si la Russie est en train de chercher à obtenir des ressources naturelles. Néanmoins, c'est vrai qu'aujourd'hui, les groupes armés sont dans un système de prédation et exploitent ces ressources naturelles et au détriment des populations, car ces ressources naturelles appartiennent au peuple. Et aujourd'hui, seule une minorité peut s'octroyer une part du gâteau, si j'ose dire.
Est-ce que l'exploitation de ces ressources fait l'objet de négociations, justement?
C'est encore une fois une réponse à laquelle il est difficile, car je ne suis actuellement pas à Bohar ni à Khartoum. On a très peu d'informations qui filtrent par rapport à ces négociations, mais j'imagine que le partage du territoire est calculé en fonction des ressources qui vont pouvoir être récupérées. Il y a tout un système de taxes parallèles qui s'est mis en place dans ces zones rebelles, et également par rapport aux différents minerais qu'on peut potentiellement extraire.
Je vous pose la question, Pierre Brunisseau, parce que vous évoquiez tout à l'heure les enquêtes qui se mettaient en place, la cour criminelle de Bangui, cette cour pénale spéciale. Est-ce que vous pensez, face à la mainmise de ces groupes armés dans certaines régions de la Centrafrique, une mainmise qui dure depuis de nombreuses années, est-ce que vous pensez que la cour pourra enquêter dans ces régions justement où sévissent ces groupes armés?
C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible, effectivement. Il y a énormément d'enjeux et on a aussi un certain nombre d'interrogations pour la suite. Néanmoins, la démarche et la dynamique est actuellement positive. On se rend compte que les forces armées centrafricaines, les FACA, ont repris certaines villes, notamment la région de Bangassou. Il y a des déplacements qui se font de la part de ces forces armées centrafricaines. On a la MINUSCA qui est également déployée dans le pays. Donc je pense sincèrement que les enquêteurs pourront faire leur travail. Néanmoins, il faudra pouvoir leur donner les moyens de faire ce travail.
Leur donner les moyens de leur travail. Merci Pierre Brunisseau. Restez encore à l'écoute, il nous reste quelques minutes. Je rappelle, si vous avez des questions, si vous souhaitez intervenir, composez le 01 55 07 58 00. On va écouter Jean-David. Jean-David, bonjour.
Bonjour la sœur Atman et bon retour. Hein.
Merci monsieur Jean-David, bonjour.
Oui. Bon, mais excusez-moi, moi je voudrais parler en tant qu'Africain. En écoutant les uns et les autres, moi ma question que je me pose, la sœur Atman, la question que je me pose aujourd'hui, pour les Africains, parce que on ne sait pas, personne ne va vous dire qui a tué qui, pourquoi un tel est mort. Aujourd'hui, les gens, les fumeurs de chanvre, les bandits en profitent de créer des groupes soi-disant politicaux, militaires, ainsi de suite, tout cela pour défendre leurs intérêts, qui tuent. Et quand on tue, on vous dit après l'amnistie, on vous tue. Moi, je peux donner un exemple. En Côte d'Ivoire, il y a eu 3 000 morts. Donc, jusque la personne l'accepte de dire qu'il y a eu 3000 morts. Les avocats aussi les défendent. Bon, c'est comme M. Kiefer n'est pas mort, et comme on appelle là, le général Gay n'est pas mort. Vous partez au Congo-Brazzaville, dans le Pool, dans la région du Pool, on tue. Même à Brazzaville, il y a des groupuscules qui tuent au pouvoir, c'est-à-dire, je ne peux pas donner des exemples, qui tuent. On vous dit qu'il y a l'amnistie. Bon, vous partez en Centrafrique en ce moment précis, il y a des groupuscules qui se créent, qui tuent. On vous dit que non, ils seront amnistiés. Vous allez peut-être au Soudan du Sud, au Libéria, on a coupé les mains des gens. Partout, les gens qui tuent, on vous dit, non, tu peux tuer, tu tords le cou comme tu veux, on te fera rien, tu seras amnistié. Mmh. Et les Africains se plaignent aujourd'hui pour dire que la CPI a été faite pour les Africains. Maintenant, où nous allons aller? Nous allons où? Moi, aujourd'hui, la sœur Atman, je peux vous poser la question très rapidement pour arriver à la fin. Est-ce que vous avez connu la colonisation? Je ne sais pas quand est-ce que vous êtes né. Est-ce que vous avez connu les périodes avant les indépendances? Je ne sais pas votre âge.
Pas du tout.
Vous l'avez connu?
Non.
Bon, mais moi, je vais vous dire que moi, j'ai connu, et j'étais encore petit, j'étais encore gauche, je partais à l'école, tout cela. Avant les indépendances, vous pouvez aller même à 45, 50 kilomètres, vous marchez la nuit avec vos parents, vous voyagez, vous envoyez un enfant même à 15 kilomètres qui va, qui revient. Il n'est pas inquiété, l'enfant revient. Il n'est pas inquiété. Nous avions demandé les indépendances pour la souffrance. Nous avions demandé les indépendances pour la souffrance alors que le retard qui est en Afrique, le premier continent riche en matières premières, le premier continent riche en matières premières qu'on peut trouver nulle part. Les téléphones qui ont inondé le monde, on trouve la matière première en Afrique, de l'autre côté de l'Est, la RDC. Pour ne donner que des exemples, l'uranium, vous avez au Niger, le Niger qui a l'uranium, ou bien au Katanga, les plus riches, les plus pauvres, les Africains pleurent. Les Africains pleurent. Pendant ce temps, vous et moi, nous sommes en train de manger, de prendre la bière, tout cela. Au Soudan, les gens qui sont en train de mourir. En RDC, là-bas, les gens qui sont en train de mourir. Ils meurent, pas par maladie, mais qui sont tués. Une femme violée qui n'a rien fait, on le viole. On te dit qu'on ne te fera rien, il y aura l'amnistie. Tu peux tuer, on ne te fera rien. Au Libéria, on a coupé les mains des gens.
Ce que vous dites, Jean-David, finalement, et c'est ce que je disais à Pierre Brunisseau au début de cette émission, c'est que finalement, l'impunité a conduit à augmenter les violences et à favoriser la création de groupes armés. Merci beaucoup, Jean-David, pour votre contribution. On va écouter William pour finir rapidement. Bonjour, William.
Bonjour, Stéphanie. Bonjour à votre invité, à tous.
Bonjour, William. Vous êtes contre l'amnistie des groupes armés?
Je suis totalement contre cette amnistie parce que, Stéphanie, il faut se mettre à la place de ces familles de victimes parce que les morts sont déjà partis. Voilà, ils savent même plus ce qui se passe derrière eux. Mais ceux-là qui ont perdu leurs parents, leur famille, qui ont perdu leurs biens, les biens matériels, ça peut passer. Mais les vies humaines, imaginez un peu ce qui s'est passé, comme j'ai dit au standard, avec la libération des gens bien même à ces pays, qui étaient condamnés pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, avec toutes ces exactions en Centrafrique. Les Centrafricains se sont mis en colère parce qu'ils ne s'attendaient pas à une décision contre d'une cour pénale internationale, genre la CPI. Et là, chez eux, ils entretuent. C'est les gens qui profitent de tout ce désordre, de désordre de massacre. Et on a aussi encore des voyous comme ça. C'est pas normal. Je sais pas qu'est-ce qu'il a conseillé Touadéra pour qu'il arrive à décider comme ça avec son gouvernement et autres. Mais franchement, c'est tapé à côté.
Merci beaucoup, William, de votre contribution. Je vais demander à Pierre Brunisseau, mais le gouvernement centrafricain est toujours dans l'objectif de lutter contre l'impunité, Pierre Brunisseau.
Tout à fait. C'est la ligne qui a été établie depuis le forum de Bangui et qui est permanente de la part du gouvernement centrafricain. On espère qu'il n'y aura aucune torsion à ce principe et que la politique de réconciliation nationale prendra évidemment en compte les victimes.
J'ai une dernière question rapide, Pierre Brunisseau. Est-ce que la réhabilitation des FACA, des forces armées centrafricaines, peut permettre aux autorités de Bangui, aux autorités centrafricaines, de faire pencher le rapport de force en leur faveur dans ces négociations et de permettre justement de faire plier un peu ces groupes armés?
Évidemment, on sait que la capacité militaire de la Centrafrique a été extrêmement réduite ces dernières années. Aujourd'hui, il y a une montée en puissance de l'armée, une restauration de l'état de droit, et c'est ce qui est très important. Un procédé de réconciliation, c'est d'abord des citoyens qui se retrouvent entre eux et également des citoyens qui peuvent se retrouver avec leurs institutions étatiques. Aujourd'hui, le fait que l'armée soit en train de se déployer est tout à fait positif.
C'est très clair. Merci beaucoup, hein, Pierre Brunisseau, d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous étiez avec nous par téléphone depuis Bangui et que vous êtes le coordinateur de projet pour la FIDH. Bonne journée à Bangui, Pierre Brunisseau.
Merci à vous, bonne journée.
Merci, au revoir. Merci à tous de votre participation. Il y a Kabilo TL Kabilo qui nous mettait ce message sur Facebook. Franchement, je ne vois pas comment cette guerre entre musulmans et chrétiens peut finir. Je propose la partition de ce pays tout simplement. Et Leunka Eratus nous disait « Bonjour le JDA, si l'amnistie est recherchée par les groupes armés, c'est alors une belle décision car la paix sera trouvée que par eux s'ils la décident ». Bien sûr, hein, n'hésitez pas, hein, le débat continue sur notre page hein, facebook.com/journaldesauditeurs ou sur Twitter également, @jauditeur. C'est donc la fin de cette émission. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition du Journal des Auditeurs. Demain, ce sera vendredi, ce sera donc la libre antenne. Nous pourrons revenir sur cette actualité centrafricaine, sur ces négociations. Nous pourrons également parler de Khalifa Sall, hein, le maire de Dakar a vu sa condamnation à 5 ans de prison confirmée par la cour d'appel de Dakar. N'hésitez pas à vous inscrire pour la libre antenne en nous envoyant un mail à jda@africa1.com ou en laissant un message hein, sur le répondeur 00 33 1 55 07 58 05. En attendant de vous retrouver demain, prenez soin de vous à l'écoute d'Africa numéro 1, la seule, l'unique radio africaine. À demain.